Indra et le manteau magique, une histoire d'Envolée Contée.
Brille, brille la rosée sous le soleil d'automne. Danse, danse les foulards au bout des doigts des filles. Tourne, tourne les jupes et les robes des garçons. Les collines merveilleuses cachent un secret inouï. Trois petits bouts d'étoffe et que vive la magie. Le wagon ralentit et les roues grincent sur les rails. La petite locomotive rouge et noire tout saute et tressaute, puis elle s'arrête. Indra regarde les collines qui ondulent devant elle. Elle a l'impression qu'elles rebondissent sous les rayons du soleil.
Tu te rappelles ce que disait Papou Manolo ? Pour sortir au grand jour, le soleil s'habille toujours de chants d'oiseaux.
Se souvient Indra en regardant par la fenêtre du wagon. Paco, son petit frère, hoche la tête, assis sur la banquette. Indra a parfois l'impression que leur grand-père se tient là, juste à côté. Et pourtant, il y a des années qu'il n'est plus là. Elle sait qu'au sein de la guilde des magiciennes et des enchanteurs, il était très respecté. On raconte que la magie coulait dans ses veines et qu'il était capable de réaliser d'incroyables tours. La porte qui relie le wagon à la locomotive s'ouvre et Livio, le père d'Indra et de Paco, apparaît dans l'entrebâillement avec un grand sourire.
« On est arrivé !»
s'écrie-t-il.
« Regardez-moi ce paysage ! Et ces collines, elles sont pas mignonnes ?»«
Moi, d'être ici, ça me donne envie de danser !»
rugit Diego, le deuxième papa des enfants. Indra est heureuse d'être arrivée dans les collines. C'était un long voyage pour parvenir jusqu'ici et ses deux papas se sont relayés jour et nuit pour conduire le train. Leur famille fait ce voyage tous les ans pour assister au grand rassemblement de la guilde. Les deux hommes entament une danse endiablée en tapant dans leurs mains. Des étincelles multicolores jaillissent de leurs pommes comme de petits confettis. Diego lance son doigt en l'air et un arc-en-ciel traverse la pièce. Indra et Paco rient. Comme tous les enchanteurs, Diego a un peu de magie dans les doigts et c'est aussi un sacré farceur. Ils dansent un moment tous les quatre dans la clarté du matin, puis ils s'affalent sur les grands poufs posés sur le sol du wagon. Livio attrape une miche de pain et un couteau sur une étagère et commence à couper des tranches.
« Je meurs de faim !»
fait Indra en croquant dans sa tartine. Elle regarde autour d'elle. Elle adore son train. C'est sa maison. Elle a toujours habité dans cet endroit et elle en connaît chaque recoin par cœur. Les couchettes en mezzanine, la petite cuisine nichée à l'avant, la salle de bain et ses carreaux de faïence un peu usés. Et surtout, les vieux rideaux rapiécés avec des bouts de nappe à carreaux et de foulards en soie. Indra aime la façon dont il laisse passer la lumière. C'est Manolo, son grand-père, qui a trouvé ce train au fond d'un vieux hangar abandonné et l'a remis sur ses rails. Il en a fait une maison roulante, avec une petite locomotive qui sert de poste de pilotage, d'atelier de bricolage et de magie, et le wagon dans lequel vit toute la famille.
Bon, alors ce soir à 20h, c'est la grande veillée des magiciennes et des enchanteurs. Mais d'ici là, si vous avez envie d'explorer un peu les environs, allez-y. Il paraît qu'au pied de la colline, il y a une cascade enchantée. Avec Diego, on va aller voir si les autres familles n'auraient pas quelques pièces de train à nous donner pour bidouiller la locomotive.
Indra engloutit sa tartine, enfile une veste en laine et un bonnet et ouvre grand la porte du wagon. Elle saute sur le sol suivie de Paco. Devant eux, il y a une petite gare abandonnée toute biscornue et des tas d'autres trains garés les uns derrière les autres. Ils sont tous de taille et de couleurs différentes. Du linge sèche suspendu aux fenêtres des wagons. Des odeurs de brouillé, de café et de bouillon se mêlent comme des rires. Indra et son frère se glissent entre les trains. Comme chaque année, la guilde des magiciennes et des enchanteurs se réunit quand les dernières feuilles des arbres tombent. C'est le moment pour tous de partager leurs tours et leurs sortilèges, leurs enchantements et leurs incantations. Et surtout de se retrouver et de danser autour du grand feu.
Indra, Paco !
Fait une voix derrière les deux enfants. Indra se retourne. Une petite fille aux cheveux courts dressée sur la tête, à court vers eux. Ses yeux pétillent comme deux étoiles.
Carmen !
s'écrie Indra en serrant son amie dans ses bras.
Ouah, t'es devenue super grande! J'ai l'impression que tu m'as dépassée! Et Paco aussi! Je vais pouvoir lui prêter mes vêtements maintenant!
Remarque Carmen. Paco sourit. Il adore les vêtements de Carmen. Ses jupes qui tournent et ses pantalons de toutes les couleurs qui brillent dans le soleil. Et il est plutôt discret, parfois même un peu timide. Alors quand il porte les habits de Carmen, il a l'impression d'enfiler un peu de son assurance et de sa force.
À ce qu'il paraît, c'est la grande Dolores qui va animer la veillée ce soir. J'ai trop hâte d'entendre ses histoires et ses légendes.
S'enthousiasme Indra.
Oui, et il y aura sûrement des démonstrations de tours de magie. Bon, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait?
Notre papa nous a dit qu'il y avait une cascade enchantée en bas de la colline. On pourra aller voir?
Ah ouais, trop cool!
Indra, Paco et Carmen laissent la petite gare et tous les trains derrière eux et dévalent la colline. Les cailloux roulent sous leurs pieds et des gouttes de rosée s'accrochent à leurs chaussettes. Carmen file devant, plus rapide et légère qu'un oiseau. Les enfants longent un ruisseau et passent devant un petit bois. Soudain, le regard d'Indra s'accroche à une drôle de cheminée qui dépasse derrière les arbres. Elle s'arrête.
Hé, regardez cette cheminée en pointe, là-bas. Qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas. On n'a qu'à aller voir.
Les enfants bifurquent et s'enfoncent dans le bois. Ça sent la mousse et les champignons. Le petit chemin tourne entre les arbres et les voici à l'orée du bois. Face à eux se dresse un grand bâtiment avec un drôle de toit en dents de scie et une longue cheminée.
On dirait une vieille usine.
Oui, tu as sans doute raison. Elle a l'air d'être à l'abandon. Regardez, toutes les fenêtres sont cassées.
Indra s'approche d'une lourde porte en acier sur le côté du bâtiment. Par curiosité, elle actionne la poignée. La porte grince et s'entrouvre.
Hé, c'est ouvert!
Carmen passe sa tête dans l'entrebâillement de la porte.
Venez, on va explorer.
Propose-t-elle les yeux brillants de malice.
Tu es sûre que c'est une bonne idée? Je pense qu'on n'a pas le droit.
Murmure Paco en fronçant les sourcils.
Bah, y a personne. Elle est complètement désaffectée, cette usine. Tout ce qu'on risque de se croiser, c'est des souris et des araignées.
Sourit Indra en passant la porte.
D'accord, mais donne-moi la main s'il te plaît, parce que j'ai un peu peur.
Fait Paco en se blottissant contre sa sœur. Indra glisse sa main dans celle de son frère et les trois enfants avancent dans un couloir de briques. Ils arrivent bientôt dans une immense salle grise avec de gros tuyaux accrochés au plafond et de grandes cuves collées contre les murs.
Ben, dis donc, c'est pas très rigolo l'intérieur d'une usine. Et puis ça sent bizarre.
Remarque Paco.
Oui, ça ne devait pas être facile de travailler ici pendant des heures. Ça sent les produits chimiques.
Oui, surtout près des cuves. Ma mère dit que si on respire trop de produits chimiques, ça peut rendre malade.
À votre avis, c'était une usine qui fabriquait quoi? Je ne sais pas. Hé, regardez là-bas, il y a une vieille machine!
Fait Indra. En face d'eux, il y a une grosse machine en métal avec des rouleaux, des câbles qui pendent et plein de boutons. Indra s'approche et passe ses mains sur la machine. Sous l'épaisse couche de poussière qui la recouvre, elle sent tout à coup quelque chose de souple et de doux.
Oh, un morceau de tissu.
Ah, c'est peut-être une machine pour faire des tissus,
suggère Carmen.
Oui, tu as raison. Regarde là, il y a un rouleau de fil qui est accroché.
C'était une usine qui fabriquait des vêtements alors?
Oui, certainement. Mais je me demande bien quelle sorte de vêtements. En tout cas, vu la taille de l'usine, beaucoup de vêtements devaient être produits ici. Moi, j'ai juste 3 t-shirts, 2 pulls et 2 pantalons. Et ça me suffit.
En plus, on peut se les prêter entre nous. Bon, on a vu ce qu'il y avait à voir. On y va maintenant?
Demande Paco. Les enfants s'apprêtent à sortir de la pièce lorsqu'Indra sent comme un frisson qui la traverse. Elle se retourne. Elle a l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'appelle. Elle secoue la tête et se dirige vers la porte. Mais le même frisson lui parcourt la nuque. Elle sonde la pièce des yeux. Tout à coup, son regard se pose sur une petite boîte en fer posée sous une table. Sans réfléchir, elle court vers la boîte et la tire de dessous la table.
Qu'est-ce que tu fais?
Lui demande Carmen. Indra ne répond pas. Doucement, elle ouvre le couvercle de la boîte. À l'intérieur, soigneusement pliée, il y a une pièce de tissu. Indra prend l'étoffe entre ses mains. Elle est incroyablement douce et soyeuse. Un courant chaud la traverse. Elle se redresse et tend ses mains devant elle. Le tissu se déplie.
Qu'est-ce que c'est ?
Un manteau, je crois. Mais on dirait qu'il a été fait avec plein de bouts de tissu différents, pour ne pas gaspiller, comme les rideaux de notre train.
Ah oui, tiens, essaye-le pour voir.
Indra passe le vêtement. Il est un peu grand, mais ça ne fait rien. Elle a juste à retrousser les manches. Elle se sent bien dans les vêtements amples. Elle est plus libre de ses mouvements, comme si elle pouvait se mettre à danser à tout moment. Elle sent bientôt comme une douce fatigue l'envahir peu à peu, comme si le manteau lui prenait son énergie. Son regard se brouille doucement. Tout devient flou autour d'elle.
Alors, c'est bizarre.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Ben, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça fait une sensation bizarre. Tiens, essaye-le, tu vas voir.
Paco passe le manteau sur ses épaules. Il descend jusqu'à ses chevilles. Il enfile les manches. Et là, il se produit quelque chose d'incroyable. Paco prend peu à peu la couleur du mur derrière lui, comme s'il se fondait dans la pièce.
« Ouah, Paco, tu es en train de devenir invisible !»
Paco regarde autour de lui un peu apeuré.
« Mais moi je vous vois !»
Il retire le manteau.
« Oh, j'ai la tête qui tourne, je me sens bizarre »
murmure-t-il en s'asseyant sur le sol.
« À mon tour de l'essayer !»
s'exclame Carmen en enfilant le manteau. Elle fait quelques pas avec, sautille, et se met soudain à courir. En une fraction de seconde, elle est à l'autre bout de la pièce.
Mais c'est magique !
Elle étend ses bras et s'élance à travers l'immense salle. Comme un coup de vent, elle traverse la pièce, le manteau flottant derrière elle.
Wouhou ! Mais j'ai l'impression de voler !
C'est incroyable ! Tu vas tellement vite qu'on arrive à peine à te suivre des yeux !
Oui, par contre, je me sens pas très bien.
Souffle Carmen en s'appuyant à la table. Le manteau tombe à ses pieds.
J'ai l'impression de ne plus avoir de force.
Indra et Paco hochent la tête. Eux aussi ont ressenti cette même sensation.
Ce manteau est magique. Il fait de Paco un caméléon, de Carmen une fusée, et moi alors ? Pourquoi elle ne me fait rien du tout, à part me brouiller la vue ?
Se demande Indra. Elle l'enfile une nouvelle fois. Fait quelques pas, agite les bras, mais rien. Juste une sorte de voile qui se pose devant ses yeux et la fatigue qui la reprend. Un peu déçue, elle le repose dans sa boîte.
Et il est déjà presque 20h, on va être en retard à la veillée.
S'écrie Carmen en regardant sa montre. Indra prend la boîte sous son bras et les trois enfants sortent de l'usine. Le jour est tombé sur les collines et la lune berce les cimes des arbres. Un vent d'automne soulève les feuilles des peupliers et les fait danser sous les reflets argentés des étoiles. Indra serre la boîte contre elle. Au plus profond de son cœur, elle est certaine d'avoir trouvé un trésor. Indra, Paco et Carmen remontent la colline en courant. La grande veillée de la guilde des magiciennes et des enchanteurs va commencer dans quelques minutes. Le vent humide du soir porte déjà les odeurs de la nuit. Indra serre contre elle la petite boîte qu'elle a trouvée dans l'usine. À l'intérieur, il y a le manteau magique. Alors que ses pieds foulent le sol, les images de ce qu'il s'est passé dans l'usine défilent devant ses yeux. Son frère qui enfile le manteau et prend peu à peu la couleur des objets autour de lui, jusqu'à se fondre complètement dans le décor. Et Carmen qui, une fois le manteau sur ses épaules, court si vite qu'on la voit à peine. Seulement sur elle, rien ne s'est passé. Quand elle a enfilé le manteau, elle a juste vu un peu flou, tout s'est brouillé devant ses yeux. Et il y avait aussi cette fatigue, comme si toutes ses forces s'étaient évaporées dans le manteau. Alors qu'ils arrivent au sommet de la colline, les lampions qui éclairent la veillée apparaissent un à un et des bruits de guitare et de violon s'envolent vers les étoiles. Devant la gare Biscornue, un grand feu est allumé et autour de lui sont rassemblés des hommes, des femmes et des enfants de tous les âges. Certains sont enroulés dans de grands châles multicolores rapiécés de nombreuses fois, d'autres portent des robes à breloques ou des pantalons à pompons. Indra, Paco et Carmen se glissent jusqu'au feu qui crépite. Une douce chaleur les enveloppe. Peu à peu, une ronde se forme et tout le monde s'assoit sur de larges tapis. Indra s'assoit en tailleur et glisse la boîte entre ses jambes. Les dernières notes du violon tourbillonnent au-dessus de la ronde et s'éteignent. Une grande femme aux longs cheveux blancs enroulés sur ses épaules s'avance.
« C'est Dolores, la plus vieille magicienne !»
souffle Indra à son frère et à son ami.
« Magiciennes et enchanteurs, bonsoir. Nous voilà de nouveau réunis, comme chaque année, pour la grande veillée de la guilde. Nous fêtons les dernières feuilles qui tombent et la terre qui entre en repos. Remercions-la pour les récoltes de l'année et célébrons ses premières gelées. »
fait Dolores de sa voix grave en posant ses deux mains sur le sol. Toutes les personnes présentes l'imitent et se recueillent un moment.
« Bien. Et maintenant, ouvrez grand vos cœurs et vos oreilles, car c'est le moment de partager une légende. »
Indra regarde autour d'elle. La grande veillée de la guilde s'ouvre toujours par une histoire. Ensuite viennent les démonstrations de tours. Mais l'histoire, c'est son moment préféré. Tous les yeux sont fixés sur Dolores qui ajuste son grand foulard de soie rouge et qui commence à raconter.
Parmi vous, certaines et certains ont un peu de magie. Vous parvenez à lancer quelques sorts et parfois même à faire jaillir de vos doigts quelques étoiles. Vous utilisez ce don comme un passe-temps amusant, une façon de se divertir. Mais savez-vous d'où vient cette magie? Savez-vous qui vous l'a transmise? Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la guilde. Voilà des années, les magiciennes et enchanteurs de la guilde étaient célèbres par-delà les montagnes et les vallées pour leur pouvoir extraordinaire. Ils ne se contentaient pas de quelques tours et enchantements comme nous le faisons maintenant. Non, la magie coulait dans leurs veines. Elle les habitait. C'était un feu dont il ne nous reste aujourd'hui guère plus que quelques étincelles. Parmi la guilde, certaines des magiciennes et des enchanteurs étaient très puissantes. Leur pouvoir dépassait tout ce que vous pouvez imaginer. On les appelait les mages. Chacun et chacune d'entre eux avait développé son propre pouvoir. Ainsi, l'une connaissait toutes les langues de la terre, même celles des animaux et des plantes. Un autre était capable de guérir la plus grave des blessures. Ou encore une troisième qui avait une force surhumaine, la rendant capable de soulever un train. Mais le plus important, c'est que les mages avaient appris à contrôler leur pouvoir et à en user avec sagesse et bonté. Ils partageaient leur immense magie avec les autres membres de la guilde et la transmettaient à ceux d'entre eux qui avaient la flamme. Car posséder de tels pouvoirs demande une grande force. Comme le feu, la magie consomme celui ou celle qui ne la maîtrise pas. Un jour, l'équilibre a été rompu. La magie est arrivée dans les mains de personnes qui ne voulaient pas l'utiliser pour faire le bien. Et alors, la magie s'est envolée. Les mages ont peu à peu perdu leur pouvoir. Vous vous demandez sans doute comment? Personne ne s'en souvient. L'oubli a enseveli la flamme.
Dolores se tait et parcourt l'assistance de ses yeux gris. Il se pose sur Indra, et celle-ci a l'impression qu'il lise en elle. La magicienne sourit.
Mais quoi qu'il nous reste, célébrons-le, car même les petites choses sont un cadeau. Qui veut nous montrer ses tours ?
Diego, le père d'Indra, se lève et des encouragements montent de la ronde. Il se met à tourner sur lui-même, sa jupe en lin virevoltant dans les lueurs rouges du feu. Il lance les bras en l'air et une traînée de lumière monte en flèche vers le ciel. Elle trace un arc de cercle au-dessus de la ronde et retombe en pluie sur tout le monde. Une petite goutte de lumière tombe sur la boîte. Et en une seconde, celle-ci s'enflamme. Indra recule avec effroi. Tout le monde s'écarte. La boîte se consume en un éclair.
Non, le manteau !
S'écrie Indra. La fumée se dissipe et Indra s'attend à ne retrouver qu'un petit tas de cendres à la place de la boîte. Mais non, le manteau est bien là, posé sur le sol, intact, comme si le feu ne l'avait pas touché. Ces différentes pièces de tissu brillent comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. Indra regarde Paco et Carmen qui fixent aussi le manteau stupéfait. Autour d'eux, les gens commencent à chuchoter en montrant le manteau du doigt. Indra croise le regard de Dolores. Celle-ci scrute le manteau de son regard perçant. Indra se sent tout à coup très mal à l'aise. Elle ramasse le manteau et court jusqu'à son train sans regarder derrière elle. Elle saute dans le wagon et se jette sur sa couchette. Elle a envie de rire et de pleurer à la fois, et surtout d'être seule. Les mots de Dolores résonnent dans sa tête.
L'oubli a enseveli la flamme. L'oubli a enseveli la flamme.
Et doucement, sans même s'en rendre compte, elle s'endort épuisée.
Indra ! Indra ! Réveille-toi ! Allez ! Le soleil brille !
La voix de son frère la tire de son sommeil. Elle ouvre les yeux.
Quelle heure est-il ?
Presque 10 heures. Tu as dormi d'un sommeil de plomb.
Sourit Carmen. Indra se redresse et regarde autour d'elle.
Le manteau, où est-il ?
Demande-t-elle en le cherchant des yeux.
Ici.
Fait la voix de son papa Livio. Indra sort de son lit et se dirige vers la table de la cuisine où est assis son père.
Paco m'a raconté votre petite excursion dans l'usine textile hier. Et il m'a montré ce drôle de manteau.
Et qu'est-ce que tu en penses ?
Le visage de Livio s'assombrit.
Je pense que les usines ne sont pas des lieux pour les enfants. Vous y êtes rentrés pour jouer, mais des enfants de votre âge y vont pour travailler dans certains pays.
Quoi ? Mais pourquoi ?
Parce que leurs familles ont besoin d'argent pour les nourrir, et parce que faire travailler des enfants, ça coûte moins cher pour les personnes qui les emploient.
Mais ça devrait être interdit !
Ça l'est. Ici, en tout cas. Et puis, dans les usines qui sont toujours ouvertes, ici, et il y en a de moins en moins, les gens sont assurés d'être à peu près payés correctement. Alors que dans d'autres pays, certains ne gagnent presque rien, ils travaillent jour et nuit.
Pourquoi il y a de moins en moins d'usines ouvertes ici ?
Parce que les gens qui font produire les vêtements dans les usines ont compris que ça coûtait beaucoup moins cher de les faire dans des pays où le travail n'était pas bien payé. Alors ils sont partis construire des usines dans ces pays. Et aujourd'hui, la plupart des vêtements qu'on achète ont traversé la moitié de la planète pour arriver dans nos armoires. Et ça, il y a une seule façon de savoir, c'est de regarder l'étiquette qui est cousue à l'intérieur de nos vêtements.
Indra soulève son t-shirt.
Mon étiquette a été découpée.
Oui, c'est parce que c'est un t-shirt qui est loin d'être neuf. Si je me souviens bien, il a appartenu à ton petit cousin, qu'il a ensuite donné à la grande sœur de Carmen, puis c'est Carmen qui l'a porté, et maintenant, il est à toi. Le mieux, c'est d'utiliser des vêtements qui ont déjà été portés, comme ça. Ça évite d'en produire de nouveaux. Ou alors de vraiment choisir avec attention ceux que l'on achète en regardant d'où ils viennent et la matière dans laquelle ils sont faits.
Et ce manteau alors ? Il n'a pas d'étiquette non plus. Tu crois qu'il est fait en quoi ?
C'est une très bonne question.
Observe Livio en scrutant l'étoffe du manteau.
On dirait un mélange de plusieurs tissus. Peut-être du lin, de la soie, des matières naturelles en tout cas. Manolo, votre grand-père, aurait été capable de répondre à cette question en un coup d'œil.
Ah bon ?
Oui. C'était un très bon couturier. C'est lui qui a cousu ce petit napperon, par exemple.
Dit Livio en montrant un bout d'étoffe sur l'étagère.
Ou même les rideaux du wagon.
C'est vrai ?
Oui, ouais. Parfois, il disait que ces rideaux nous protégeaient du mauvais sort, qu'ils étaient enchantés.
et que c'était les gardiens du train. Je les ai laissés là parce que je les trouve jolis, mais je ne crois pas que les tissus aient des pouvoirs magiques.
Eh bien, tu te trompes, papa. Regarde.
Sourit Paco en enfilant le manteau. Aussitôt, le manteau commence à prendre la couleur de la chaise sur laquelle est assis Paco. Celui-ci se déplace et voilà qu'il se fond dans le décor. Le mur, les étagères, rien ne lui échappe. Il retire le manteau et s'affale sur la banquette.
« Je suis épuisée !»
murmure-t-il.
Mais...
Livio le regarde, bouche bée.
Tu as enfilé ce truc et tu as disparu. Et comment c'est possible ?
Ce manteau est magique, il donne des super pouvoirs aux gens qui le mettent.
Moi j'arrive à courir super vite quand je le porte,
explique Carmen.
Moi je crois plutôt qu'ils révèlent leurs pouvoirs. Vous vous souvenez hier, pendant la veillée, Dolores a parlé des mages qui avaient des pouvoirs différents, comme celui de guérir ou de parler le langage des animaux.
Mais oui, tu as raison,
s'écrie Paco.
C'est complètement fou cette histoire. Et toi, Indra, c'est quoi ton pouvoir ?
Eh bien, je ne sais pas. Le manteau me fait juste voir flou. Et le porter me prend toute mon énergie, comme Paco et Carmen.
Un silence s'installe dans le wagon. Carmen prend le manteau entre ses doigts.
Vous croyez que si on arrive à en fabriquer d'autres, on pourra tous être des mages ?
Mais oui, sans doute. On peut essayer en tout cas. On trouve du tissu, on prend les mesures de ce manteau... Et on fait exactement le même.
D'accord. Je vais vous sortir ma machine à coudre et ma boîte de couture.
Sourit Livio.
Et surtout ma grande malle à tissu.
Ajoute-t-il en tirant une lourde caisse de dessous la banquette. Les enfants se mettent au travail. Carmen prend les mesures du manteau. Et Paco et Indra choisissent soigneusement les tissus qui vont composer l'autre manteau. Livio, lui, étudie les coutures.
Alors ça, c'est étrange. Je ne sais pas avec quelle machine a été fabriqué ce manteau, mais je n'ai jamais vu des points pareils. Les coutures sont tellement fines qu'elles sont presque invisibles. C'est incroyable.
Toute la journée, les enfants piquent, cousent et s'appliquent, aidés par Livio. Lorsque les premières étoiles se mettent à scintiller, deux manteaux presque identiques sont posés sur la table. Indra sent son cœur qui s'accélère.
C'est long de fabriquer un vêtement. Alors, qui veut l'essayer en premier ?
Demande Paco.
Moi, je veux bien.
Propose Carmen. Elle enfile soigneusement le manteau. Les quatre retiennent leur souffle. Elle ouvre la porte du wagon, saute et se met à courir. Elle court vite, très vite. Mais pas plus vite que d'habitude. Elle s'arrête un peu essoufflée.
Ça ne fait rien du tout.
Remarque-t-elle dépitée. Paco et Indra sont tout aussi déçus.
Ce n'est pas grave. Au moins, vous avez essayé. Je pense qu'il y a quelque chose en plus dans la fabrication du manteau qui lui donne sa magie. La nuit porte conseil. Nous verrons bien demain ce que nous ferons.
Carmen leur dit bonsoir et retourne dans le grand train bleu et or de sa famille. Paco et Indra se mettent au lit. Mais Indra n'a pas sommeil. Elle se tourne et se retourne dans son lit. Elle a l'impression que quelque chose l'appelle. Elle finit par se lever et marche jusqu'à la cuisine. Le manteau magique est toujours posé sur la table. Elle le prend entre ses mains et sent comme un frisson qui la traverse. Elle retourne s'asseoir sur son lit. Elle suit son instinct et elle enfile le manteau. Aussitôt, sa vision se brouille. Indra ferme les yeux. Mais même les yeux fermés, elle a l'impression que des ombres passent devant elle. Comme si elle regardait un film. Et tout lui semble familier. Elle se concentre. Elle a l'impression qu'une voix parvient à ses oreilles. La fatigue la prend. Elle résiste. Elle met toute son énergie dans ce qu'elle voit et dans ce qu'elle entend. Quelqu'un porte quelque chose. Elle s'effondre sur son lit et retire péniblement le manteau. C'est trop. Elle est épuisée. Le sommeil l'emporte et elle s'endort, le manteau encore dans sa main. Elle se sent apaisée et étrangement sereine. Au loin dans ses rêves, une voix murmure.
Indra, Indra. Indra, Indra.
Indra se retourne dans son sommeil. La voix lui arrive de loin, comme du fond d'un tunnel. Mais elle lui paraît en même temps si familière.
Grand-père Manolo, est-ce que c'est toi ?
Une ombre passe devant ses yeux clos.
Est-ce que je rêve ? Est-ce que je suis toujours endormie ?
Elle ne sait plus vraiment. Elle sent entre ses doigts l'étoffe du manteau magique qu'elle a trouvé dans la vieille usine. Il diffuse une douce chaleur. Elle sait qu'il révèle les pouvoirs de celui ou celle qui le porte. Mais elle ignore quel est son propre pouvoir. Elle s'est endormie avec ce manteau dans la main. C'est tout ce dont elle se souvient.
Indra.
Indra se laisse porter par la voix et l'ombre qui flottent devant ses yeux. Peu à peu, elle commence à reconnaître des formes. Comme si un décor était en train de s'installer dans son rêve. La banquette, la petite cuisine, les couchettes et les rideaux de toutes les couleurs qui se balancent doucement dans le courant d'air.
Mais je suis dans le train. Tout est familier. Mais certaines choses ne sont pas là. Ma couchette et celle de Paco n'existent pas. Et puis les étagères ne sont pas à la même place. Et les carreaux de la salle de bain, ce ne sont pas les mêmes.
Soudain, elle sursaute. Quelqu'un se tient derrière elle. Un homme à la moustache brune qui porte une grande cape rouge chatoyante et de longues boucles d'oreilles.
Grand-père, tu as l'air tellement jeune. Où sont tes longs cheveux gris et ta barbe ?
Manolo passe à côté d'Indra sans la regarder et va s'asseoir à la table de la cuisine.
Coucou.
L'homme se penche au-dessus d'une drôle de machine dorée et accroche une bobine de fil tout en haut.
J'ai l'impression qu'il ne me voit pas et qu'il ne m'entend pas non plus.
Observe Indra. Manolo prend une longue paire de ciseaux et se met à couper une étoffe. Indra s'approche et touche le tissu. Il est de la couleur du soleil.
On dirait du lin. Ça laisse passer la lumière et ça respire. Sa cape a l'air d'être faite en lin aussi.
Remarque Indra en passant son doigt sur le bord du vêtement de Manolo. Elle regarde son grand-père travailler. Il est en train de coudre quelque chose. Peu à peu, le tissu prend forme. Un col, une capuche. Tout à coup, on toque à la porte du wagon. Manolo se lève.
Oui, qui est là ?
C'est moi !
Fait une voix grave. Manolo ouvre la porte et une jeune femme saute dans le wagon avec agilité. Elle est grande et ses cheveux sont enroulés sur ses épaules. Indra a l'impression de reconnaître ce regard perçant.
Regarde, Dolores, j'ai presque fini ta cape.
Sourit Manolo en dépliant l'étoffe jaune soleil.
Elle est magnifique.
S'émerveille la jeune femme.
Merci.
Il était temps. Tu es une mage désormais. La flamme brûle en toi.
Lui répond Manolo. Indra a la tête qui tourne. Tout autour d'elle, tout devient flou. Le décor du train s'éloigne. Manolo et Carmen ne sont plus que deux ombres diffuses devant ses yeux. Elle se réveille en sursaut et se redresse dans son lit. Tout son corps tremble. Elle a chaud, elle a froid. Elle aperçoit le manteau qui a glissé au pied du lit. Elle se recouche.
« Ce n'était qu'un rêve »,
murmure-t-elle avant de se rendormir. Et pourtant, toute la scène lui a semblé tellement réelle. Les premiers rayons du soleil réveillent Indra et son frère Paco. À peine les yeux ouverts, Indra se glisse dans la couchette de son frère.
« Paco, il s'est passé une chose incroyable cette nuit. J'ai fait un rêve trop bizarre. Enfin, je suis même pas sûre que c'était un rêve. Tout avait l'air tellement réel.
Ben vas-y, raconte !»
lui demande son frère avec les yeux ronds. Indra lui raconte ce qu'elle a vu dans son rêve. Son grand-père encore jeune en train de coudre une cape. Et Dolores qui est en fait une mage. Paco n'en revient pas.
« Et tu dis que ça t'est arrivé quand tu tenais le manteau dans tes mains ? Peut-être que ce manteau te fait avoir des hallucinations. »«
Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'aller demander à Dolores. »
Oui, tu as raison. Allons chercher Carmen. »
Les deux enfants s'habillent en vitesse et sortent du train. Indra porte le manteau magique sous son bras. Comme si elle l'avait deviné, Carmen les attend devant son train. Les enfants remontent ensemble la file de train. À l'intérieur des wagons, ils entendent la vie qui s'éveille. Le café chaud qui coule dans les tasses, le bruissement des draps que l'on secoue, les rires des enfants. Ils parviennent au train de Dolores. C'est un train minuscule avec une petite locomotive jaune soleil. Dolores y vit seule. Elle s'occupe de conduire et d'entretenir son train sans l'aide de personne. Indra approche sa main pour toquer à la porte du wagon, mais la porte s'ouvre toute seule.
« Venez, je vous attendais !»
fait la voix de Dolores. À l'intérieur du wagon, des bougies brillent suspendues dans les airs. Indra a beau chercher les fils qui les font tenir en l'air, elle n'en voit aucun. Il règne une odeur d'encens et de bois.
« Je me disais bien que vous alliez finir par venir me voir !»
sourit Dolores. Elle est assise dans un grand fauteuil à bascule. Elle se balance doucement et plonge ses yeux gris dans ceux d'Indra.
« Bon, et maintenant Indra, si tu me montrais ta trouvaille ?»
Indra a 1000 questions à poser, mais elle sait qu'il vaut mieux attendre un peu. Elle tend précautionneusement le manteau à Dolores. Celle-ci l'effleure du bout des doigts, et de petites étincelles se mettent à courir à la surface du tissu.
« Waouh !»
s'émerveillent les enfants.
« Ah, voilà qui est intéressant !» Voyons voir ce que tu sais faire d'autre.
Fait Dolores en soufflant sur le manteau. Aussitôt, une flamme embrase l'étoffe. La lumière et la chaleur du feu emplissent la pièce. Indra, Paco et Carmen se reculent. La flamme s'éteint doucement. Le manteau n'a pas la moindre trace de brûlure. Il est indemne dans la main de Dolores.
Mais comment ça se fait qu'il ne parte pas en fumée?
Demande Indra stupéfaite.
« C'est parce qu'il est le feu. Et l'on ne peut pas brûler du feu, n'est-ce pas ?»«
Oui, ce manteau est magique, mais la magie, ce n'est pas du feu. »
demande Carmen.
« C'est tout comme. Si l'on sait s'en servir, la magie peut faire de grandes choses. Mais si on ne la maîtrise pas, elle détruit tout sur son passage. »«
Tu maîtrises la magie, toi ?»
interroge Paco.
Il fut un temps où nous ne formions qu'un, elle et moi. Mais ce temps n'est plus.
Dolores ?
Fait Indra en se rapprochant de la vieille dame.
Je crois que je t'ai vue dans un rêve.
Raconte-moi ça, mon enfant.
Indra lui raconte le rêve qu'elle a fait et Dolores l'écoute avec attention. Puis, lorsqu'Indra a fini son récit, Dolores se lève. Un sourire mystérieux flotte sur son visage. Elle attrape une petite boîte en bois sculptée posée sur une étagère. Elle l'ouvre à l'aide d'une minuscule clé dorée accrochée à son cou. Elle sort de l'intérieur de la boîte un morceau de tissu jaune soleil.
Hey, je reconnais cette couleur. C'est la même que celle du tissu que cousait mon grand-père dans mon rêve.
Je me souviens très bien de ce moment. Tout s'est passé exactement comme tu le décris, Indra. Ce n'était pas un rêve que tu as fait. Tu es revenu dans le passé.
Indra a tout à coup la tête qui tourne.
Alors, ce serait ça mon pouvoir? Voir dans le passé?
Dolores hoche la tête.
C'est un don très rare. Pour l'instant, tu ne le maîtrises pas encore tout à fait, et il ne te vient que lorsque tu es endormi. Mais si tu travailles dessus, tu pourrais bientôt te promener dans le temps à ta guise.
Indra regarde le manteau posé sur l'accoudoir du fauteuil. Puis, elle regarde la petite pièce de tissu jaune dans la main de Dolores.
Est-ce que tu es une mage ?
Je l'étais, oui. Ce petit bout de tissu que tu regardes, c'est tout ce qu'il reste de ma cape de mage. Le reste est parti en poussière en même temps que mon pouvoir s'est effrité. Tout comme le manteau que vous avez trouvé, chaque mage avait une cape magique cousue sur mesure par Manolo, ton grand-père. C'est cette cape qui révélait leur pouvoir.
Mais pourquoi est-ce que seuls les mages avaient une cape ?
Demande Carmen.
Eh bien, parce que les mages étaient des personnes suffisamment avisées et paisibles pour pouvoir user de leur pouvoir dans la sagesse. Pour devenir mage, il fallait cultiver la flamme qui était à l'intérieur de soi. la connaître, en prendre soin. Toutes les magiciennes et les enchanteurs naissent avec une petite étincelle en eux. Cette petite étincelle deviendra une belle flamme si elle a la place de grandir et de l'amour pour la nourrir. Ensuite, ceux et celles qui souhaitaient être mages devaient cultiver la sagesse. Et puis Manolo leur cousait une cape magique pour que leur pouvoir leur soit révélé.
Mais qu'est-ce qu'il se passe si quelqu'un enfile la cape sans être mage ?
Vous avez essayé ce manteau tous les trois, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Ben, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec.
Acquiesce Paco dans un sourire.
Mais on était aussi très fatigués, comme si on n'avait plus d'énergie.
Se rappelle Carmen.
C'est parce que la flamme qui est à l'intérieur de vous est toute jeune. Pour enfiler une cape ou un manteau magique, il faut avoir une grande force et s'être entraîné pendant des années. Si on pratique la magie sans entraînement, elle nous épuise.
Un silence s'installe dans le train.
J'ai une dernière question. Comment est-ce que Manolo faisait pour coudre les capes ? Quel tissu est-ce qu'il utilisait ?
Oui, parce qu'on a essayé de refaire un manteau magique hier, mais ça n'a pas du tout marché.
Raconte Paco.
Je vois. Le tissu est une chose. La fabrication en est une autre. Déjà, c'est très important d'utiliser des tissus qui ne font pas de mal à la terre. Ça veut dire des tissus qui sont faits à partir de plantes et pas avec du plastique ou d'autres matières chimiques. Et puis, il faut qu'ils soient produits ici et pas à l'autre bout du monde. Comme le lin, par exemple, qui fait de si jolies fleurs bleues. On en trouve dans ces collines. Et ensuite, il faut le tisser, puis le coudre. Et c'est là que ça se complique.
Comment ça ?
Manolo avait une machine. Une machine à coudre extraordinaire.
Et Dolores se tait. Les enfants attendent la fin de sa phrase, mais elle ne vient pas.
Je ne peux pas vous en dire plus. Peut-être trouverez-vous les réponses vous-même.
La porte du wagon s'ouvre toute seule. Il est temps de partir. Indra reprend le manteau. Les trois enfants remercient Dolores et sortent du train. Un oiseau passe au-dessus de leur tête dans un jet de plumes blanches et noires. Sans réfléchir, ils marchent en silence en direction du petit bois près de l'usine.
Mais comment on pourrait trouver les réponses nous-mêmes ? Je veux comprendre ce qu'il s'est passé.
Soupire Carmen.
Oui, moi aussi. On a trop de questions.
Renchérit Paco.
Je pourrais remonter dans le passé avec le manteau.
Suggère Indra.
Si vous me donnez la main, à trois, on aura peut-être la force.
D'accord, allons-y.
Indra pose le manteau sur elle et ferme les yeux. Aussitôt, tout devient flou. Des ombres tourbillonnent devant ses yeux. Elle s'accroche à ce qu'elle voit comme si elle remontait un fil. Des bruits de voix, la lumière d'une bougie, la voilà dans son train. Manolo se tient devant elle, une bougie à la main. Dolores est assise sur la banquette. Tous les deux sont jeunes. Indra a remonté le temps encore une fois. Manolo regarde par la fenêtre, l'air inquiet.
« Ils arrivent !»
chuchote-t-il, les sourcils froncés.
« Qu'est-ce que tu vas faire ?»
demande Dolores d'une voix anxieuse.
« Il faut que je fasse disparaître ma machine. S'ils la trouvent, ça en sera fini des mages et peut-être même de la guilde. Ils essaieront de fabriquer d'autres machines en utilisant la mienne comme modèle. Et ensuite, ils produiront des tas de vêtements magiques pour pouvoir les vendre. Leurs usines est déjà construite et les vêtements vont perdre leur âme. Les personnes qui les enfileront ne sauront même plus combien d'heures ont été passées à les fabriquer ou combien de soleil et de pluie il aura fallu pour faire pousser le lin ou le coton. La magie ne sera plus utilisée pour faire le bien, mais pour satisfaire les désirs de quelques-uns. Et la magie se perdra.
Indra comprend soudain que l'usine dont parle Manolo est l'usine dans laquelle ils ont trouvé le manteau. Manolo se tourne vers la table de la cuisine sur laquelle est posée la drôle de machine à coudre dorée. Il la prend sous le bras.
Retiens-les le plus longtemps possible. Je vais la cacher à un endroit où personne ne la trouvera jamais.
Dolores hoche la tête et Manolo ouvre la porte qui mène à la locomotive. Indra se glisse derrière lui. Son grand-père se baisse et soulève l'épais tapis qui recouvre le sol de la locomotive. Sous le tapis, il y a une trappe. Indra reconnaît cette trappe. Son père Diego lui a expliqué qu'elle mène au moteur du train, mais personne ne l'ouvre jamais. Manolo attrape une petite clé accrochée à son cou et la glisse dans la serrure de la trappe. Celle-ci s'ouvre. Indra retient son souffle. Derrière la porte, des éclats de voix se font entendre. Manolo dépose délicatement la machine sous la trappe et la referme soigneusement avec la clé. Il a à peine le temps de rabaisser le tapis que des gens entrent dans la locomotive. Mais la vision d'Indra se brouille et la voix de son frère la tire de son rêve.
Indra, ça va ?
Elle ouvre les yeux. Elle est allongée sur le sol, toute tremblante. Elle se redresse péniblement.
Je sais où est cachée la machine. Venez !
S'écrie-t-elle en entraînant Paco et Carmen vers son train. Sur le chemin, elle leur raconte tout ce qu'elle a vu. Des personnes ont voulu voler la machine à coudre de Manolo pour ensuite en construire des centaines et pouvoir fabriquer des milliers de vêtements magiques et les vendre. Ils ont voulu se servir de la magie pour s'enrichir. Mais grâce à Manolo, ils n'ont jamais trouvé la machine et aucun vêtement magique n'est jamais sorti de l'usine. Tous les trois sautent dans la locomotive et Indra arrache le tapis. La petite trappe est là. Elle tire sur la poignée.
Attends, laisse-moi faire,
suggère Carmen.
Paco, tu me prêtes ta barrette à cheveux, s'il te plaît ?
Paco décroche sa barrette. Carmen la prend entre ses doigts habiles et se met à la tourner dans tous les sens jusqu'à former une sorte de crochet avec. Puis, elle la glisse dans la serrure. Celle-ci s'ouvre. Indra se penche au-dessus de la trappe. Juste sous ses pieds, il y a une drôle de machine dorée surmontée d'une bobine de fil.
On l'a retrouvée.
Les dernières feuilles tombent des arbres et les premières gelées blanchissent la terre. Indra réajuste sa cape vert émeraude et se dirige vers la grande veillée de la guilde. Elle ne porte plus le manteau magique depuis qu'elle a une vraie cape de mage. Une année a passé depuis qu'Indra, Paco et Carmen ont trouvé le manteau dans l'usine. Le manteau avait été fabriqué avec des restes de capes de mage. Il n'avait pas été cousu pour quelqu'un en particulier. C'était un essai. Personne ne sait vraiment comment il s'est retrouvé dans cette usine. Dolores a proposé à Indra de détruire le manteau, mais celle-ci a préféré s'en servir pour coudre de nouveaux rideaux pour la locomotive. Depuis qu'ils ont retrouvé la machine à coudre de Manolo, Livio a décidé de prendre la suite du travail de son père. Et aujourd'hui, c'est lui qui coud les capes pour les mages. Le deuxième papa, Diego, lui donne un coup de main de temps en temps. Avec les capes cousues sur la machine magique, la magie est revenue dans la guilde. La vieille Dolores a réuni toutes les magiciennes et les enchanteurs, et tous ont fait un pacte pour ne pas reproduire les erreurs du passé, et pour que les pouvoirs soient toujours utilisés avec sagesse. Indra sourit. Elle avance vers la fête. Dans la nuit scintillante, les premières notes de violon tourbillonnent au-dessus du grand feu.